Raphaël, juste avant de commencer la chronique, je veux rappeler, là, toute la journée, en fait, ça durait depuis quelques jours, là, il y avait de la pression à cause de ce qu'on appelle le variant indien pour une suspension des vols en provenance de l'Inde et du Pakistan. Bien, le gouvernement fédéral vient d'annoncer que ces vols-là sont suspendus pour un mois. Donc, plus de détails à venir, là, mais je tenais à le dire. C'était une demande des premiers ministres provinciaux, notamment, là, et des partis d'opposition, de certains partis d'opposition à Ottawa. Donc, salut Raphaël.
Salut.
OK, premier sommet international de la Maison-Blanche sur le climat qui s'ouvre aujourd'hui.
Ouais, écoute, on fait les manchettes partout avec les cibles de réduction, là. T'sais, ça devient, honnêtement, là, une espèce de bataille politique puis de relations publiques, là. T'sais, moi, ça va être 40%, moi 45, moi 50. Ce qui est surtout important, je te dirais aujourd'hui, l'accomplissement potentiel le plus important, c'est qui est à la table. Puis là, je parle pas du Canada, je parle pas des autres pays d'Occident. Je parle de la Russie, de la Turquie, puis surtout de la Chine. Parce que si la Maison-Blanche puis l'ensemble de l'Occident sont capables, c'est un énorme si, mais s'ils sont capables de les pousser à prendre des actions concrètes, mais c'est majeur, puis pas juste pour leur réduction, les réductions de ces pays-là, parce que ça vient démonter l'argument principal des acteurs les plus récalcitrants pour ce qui est d'adopter des mesures contre les gaz à effet de serre, ici, justement, en Occident, c'est-à-dire on ne devrait pas agir seul, puis punir, entre guillemets, nos économies, quand il y a d'autres géants comme la Russie puis la Chine qui font rien. Fait que c'est quand même majeur potentiellement, je tiens à te le dire. Une fois que c'est dit, quand on parle des États-Unis, on se parle d'un système qui est interdépendant là, lorsqu'il est question d'environnement, mais aux États-Unis, on parle depuis très longtemps du concept d'indépendance énergétique. Autrement dit, on ne veut pas dépendre d'autres pays, surtout au Moyen-Orient, pour subvenir à nos besoins énergétiques. Puis l'indépendance énergétique, bien, les États-Unis, ils l'ont quand même largement atteint dans les dernières années avec une chose. L'exploitation des gaz puis du pétrole de shale, de schiste. Mmh. Je ne sais pas si tu te souviens oui. toute la polémique qu'on avait eue au Québec là-dessus. On ne l'a pas fait ici. En bonne partie aux États-Unis, on l'a fait. Et il y a des bénéfices à ça qui vont au-delà des emplois. Je te donne un exemple. J'entendais il n'y a pas longtemps des employés, des anciens employés de l'administration Obama qui disaient qu'il y a une couple d'années que donc on n'aurait jamais pu mettre des sanctions contre le régime iranien pour essayer de contenir son programme nucléaire si les États-Unis dépendaient encore autant qu'avant du pétrole iranien. Fait que, tu sais, ça te donne cette espèce d'avantage-là qui va au-delà de l'économie.
Dis-moi, OK, la relation privilégiée entre l'Arabie saoudite et les Américains, là, ouais. Je veux dire, les Américains tolèrent toute la barbarie de ce régime-là. Moi, j'ai toujours vu ça comme étant au nom de la sécurité énergétique des Américains. S'ils sont désormais indépendants, pourquoi ils continuent à s'embarrasser d'un régime semblable?
Je dirais qu'ils le sont davantage. Est-ce qu'ils le sont complètement? Okay. Peut-être pas. Et garde en tête qu'il y a aussi ceci. Il n'y a pas juste la question énergétique lorsque tu parles de l'Arabie saoudite. Pense à Israël, pense à la stabilité de la région aussi, le fait que c'est un des rares alliés, disons, dans cette région-là, qui est davantage aux côtés des Américains dans tout ce conflit-là. Fait qu'il y a ça aussi. Une fois que ceci est dit, il y a d'énormes bémols à poser. Parce qu'à quel coût est-ce que ça vient, cette indépendance-là? Je veux te ramener ça, en fait, à une échelle humaine. Okay? Je lisais la semaine dernière un livre extraordinaire sur une famille de la Pennsylvanie, okay, qui habite sur une ferme depuis des générations. Mm. Puis on commence à exploiter le shale, le schiste, autour de leur propriété. Leurs animaux commencent à mourir, leurs enfants commencent à tomber malades, et ils n'ont aucune idée au début pourquoi. Parce qu'on leur garantit qu'il n'y a aucun problème au niveau environnemental lié à l'exploitation de ces gaz-là. Jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que, en fait, il y a des niveaux anormaux de métal dans leur eau.
Et de voici méthane, hein, c'est ça?
De méthane et de métal aussi. De l'empoisonnement métallique.
Je t'arrête une seconde avant ton punch. J'ai déjà vu là, des images de gens dans des régions semblables où on exploite les gaz de schiste aux États-Unis, là. Ils ouvrent le robinet, l'eau coule, ouais. ils allument un briquet, puis le feu pogne dans le jet d'eau.
C'est une image qui a fait le tour du monde, ça, okay. Effectivement.
C'était pas un trucage, ça.
Ce n'était pas un trucage. Okay. Et donc, la compagnie gazière nie catégoriquement qu'elle est liée à ces problèmes-là, et pour faire taire la famille, leur fournissent un réservoir d'eau propre, en se disant, écoutez, on fait pas de problème ici, mais au cas où, on va vous fournir en eau propre. Mais plus le temps avance, plus la famille s'aperçoit qu'il y a d'autres familles touchées dans leur communauté par les mêmes problèmes. Sauf que, c'est rendu qu'ils ont peur de sortir publiquement contre la compagnie gazière. Pourquoi? Parce qu'ils en sont devenus à dépendre de leur eau. Alors que c'est la compagnie qui a empoisonné l'eau au départ. Tu sais, c'est hallucinant quand tu penses à ça. Donc, c'est un coût, un exemple de coût humain sur la santé. Mais aussi ceci, de façon beaucoup plus large, plus ça va nous toucher comme Québécois-Canadiens. quand on se parle du bien fondé peut-être là, à conserver les combustibles fossiles, autre que juste éviter de polluer avec des VUS et des avions, c'est qu'on en a besoin à des fins alimentaires. On réalise pas, Patrick, là, le poids qu'ont les combustibles fossiles, dans les fermes industrielles aux États-Unis. Puis ça peut aller, écoute, de la production de fertilisants jusqu'au distillat pour l'agriculture. Puis ça, ben, ça se remplace pas nécessairement, pour l'instant en tout cas, par l'éolien ou d'autres sources renouvelables.
Non, mais Raphaël, le jour où on sera rendu à utiliser des carburants fossiles juste pour ça, on aura déjà fait des bons bonds en avant, là.
T'as raison, mais le point, c'est ceci. C'est qu'à un moment donné, c'est des sources finies. On n'en aura plus. Et ça serait peut-être bon de s'assurer de pas les brûler trop rapidement parce qu'à un moment donné, on va peut-être avoir un problème au niveau alimentaire. Et garde en tête ceci. Tu sais, je te disais qu'on réalise pas le poids qu'ils ont sur les fermes industrielles. Ben, on réalise pas le poids qu'ont les fermes industrielles américaines pour notre sécurité alimentaire de ce côté-ci de la frontière. Bref, on vit dans un monde interconnecté. C'est particulièrement vrai quand on parle d'environnement.
À demain, Raph.
À demain.